Radio France Internationale, il est midi à Paris, 11h en temps universel.
Marion Cazanov.
À la une de première libération d'otages israéliens prévue dimanche. Au même moment où doit entrer en vigueur le cessez-le-feu à Gaza, un accord de trêve toujours fragile. Et en attendant, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur l'enclave. Emmanuel Macron au Liban, visite éclair de 12 heures. Le président français est venu soutenir les nouveaux dirigeants du pays, notamment le président Joseph Aoun, qui occupe un poste resté vacant pendant 2 ans. Il échappe à une première motion de censure, mais peut-être pas la dernière. Le premier ministre français, François Bayrou, réunit les partenaires sociaux pour renégocier la très contestée réforme des retraites. Il organise un conclave et c'est ce qui lui a permis d'éviter pour l'instant la censure chez les socialistes. Et puis c'était il y a 50 ans en France, la dépénalisation de l'avortement avec l'adoption de la loi Veil, le droit à l'IVG qui, en plusieurs décennies, a été élargi à de nombreuses reprises. Reportage en fin de journal. Au Proche-Orient, l'attente après l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Un accord validé mais fragile, le cabinet de sécurité israélien se réunit pour l'approuver. Israël, hier, accusait le groupe islamiste de revenir sur certains points. En tout cas, il devrait entrer en vigueur dimanche avec un cessez-le-feu à Gaza. Mais en attendant, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur l'enclave palestinienne, faisant des dizaines de morts chaque jour, des morts inutiles pour les Gazaouis qui déplorent la faiblesse des négociateurs arabes. Reportage à Gaza de Rami Al-Megari avec Sami Bourlifa à Jérusalem.
À Gaza, depuis l'annonce du cessez-le-feu, rien n'a vraiment changé. Les bombes continuent de s'abattre. La mort, le deuil, encore. Mohamed, habitant de Deir el-Balah, a été réveillé en pleine nuit par de violentes déflagrations.
Les frappes qui ont visé Deir el-Balah durant la nuit ont été vraiment dévastatrices. Un campement de déplacés a entièrement brûlé. On parle de plus de 20 morts. Alors on nous dit que la trêve entrera en vigueur dimanche à 12h15, mais en attendant, le sang continue de couler.
Tristesse, colère, Jamil est à bout. Plus qu'aux Israéliens, il en veut surtout aux médiateurs qatariens et égyptiens qui ont aidé à négocier ce prochain arrêt des combats.
Le cessez-le-feu aurait dû prendre effet immédiatement. Pourquoi avoir donné aux Israéliens 4 jours supplémentaires pour leur permettre de tuer davantage de gens? Ils n'en ont pas tué assez comme ça? C'est injuste. Mais c'est de la faute des négociateurs arabes qui sont faibles et qui resteront faibles toute leur vie.
Ces bombardements ne tuent pas seulement les Palestiniens, mais ils mettent les otages israéliens en danger, avertit le Hamas. Rami Al-Merali, Gaza, Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Un cessez-le-feu doit donc entrer en vigueur dimanche. Il sera assorti de premières libérations d'otages, justement, selon les services du Premier ministre israélien. Et selon le président français, 2 otages franco-israéliens, Ofer Calderon, 54 ans, et Ohadia Alomi, 50 ans, font partie de cette liste où figurent 33 noms et seront parmi les premiers à être libérés. Tous deux avaient été enlevés au kibboutz de Nir Oz le 7 octobre 2023. Emmanuel Macron, qui se trouve justement au Proche-Orient, au Liban, première visite depuis 2020, il est venu soutenir les nouveaux dirigeants, le président Joseph Aoun, élu il y a une semaine, ainsi que le Premier ministre Nawaf Salam. Emmanuel Macron au Liban, pendant que François Bayrou planche sur les retraites, le Premier ministre et son gouvernement ont échappé à leur première motion de censure hier à l'Assemblée. Il a multiplié pour cela ces derniers jours les gestes vers les socialistes qui ont décidé hier de ne pas suivre le reste du NFP et donc de ne pas voter cette motion. Pourquoi ? Parce que François Bayrou leur a promis de renégocier cette très contestée réforme des retraites. Il a lancé pour cela un conclave entre syndicats et patronat. Bonjour Raphaël Delvolvé, ce fameux conclave, Raphaël, doit durer 3 mois et se déroule au ministère du Travail. C'est là que vous vous trouvez ?
Oui, la réunion a commencé il y a une heure. C'est une prise de contact aujourd'hui. Les vraies discussions commenceront en réalité fin février, quand la Cour des comptes aura rendu sa mission flash, cet état des lieux du financement du système de retraite français. Une mission qu'a annoncé François Bayrou pendant sa déclaration de politique générale mardi à l'Assemblée. Le chef du gouvernement est là ce matin. Il supervise avec les ministres de l'économie et du travail ses premières discussions qui portaient essentiellement sur la méthode aujourd'hui. Pour l'instant, à l'exception peut-être de la CGT qui dit venir exiger l'abrogation pure et simple de la réforme des retraites, tout le monde se dit ouvert à la concertation, personne n'a de totem, même si le patronat, principalement le MEDEF, refuse tout alourdissement du coût du travail et que Matignon impose pour ces discussions que les solutions trouvées permettent seulement de réduire le déficit du système des retraites.
Et politiquement, François Bayrou lie son destin à Matignon, à ses concertations.
Oui, car vous l'avez rappelé, il a fait là un geste à la gauche pour s'épargner la censure. Le PS demande cependant, quel que soit le résultat des concertations, avec accord partiel ou sans accord, que le Parlement ait le dernier mot. François Bayrou, lui, promet un projet de loi, mais seulement en cas d'accord global ou partiel. C'est pour cela que dans un courrier adressé hier au Parti Socialiste, il a dit appeler de ses voeux à un accord. Il le sait, si ces négociations échouent, il risquera la censure. Les socialistes l'ont d'ailleurs redit hier encore. Et puis tout cela se déroule aussi, et il ne faut pas l'écarter, sous l'œil attentif et très critique de la droite, pas franchement contente de ces négociations.
Raphaël Delvolvé en direct du ministère du Travail pour RFI. C'est peut-être une première en France, une patiente serait guérie du VIH à Marseille dans le sud-est. Elle est âgée d'une soixantaine d'années et avait été diagnostiquée séropositive en 1999. Elle aurait été guérie grâce à une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie qu'elle avait développée. Depuis, tous les tests sont revenus négatifs. Depuis un an, elle ne prend plus de traitement par antirétroviraux. Il s'agirait du 8e cas de rémission dans le monde. Il y a tout juste 50 ans, entrait en vigueur en France la loi Veil qui autorise l'avortement en France. Donc la ministre Simone Veil l'avait défendue en prononçant un discours devant l'Assemblée devenu célèbre. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, avait-elle déclaré. Depuis 1975, les avancées sur le sujet ont été nombreuses. Par exemple, les sages-femmes sont autorisées à la pratiquer, cette interruption volontaire de grossesse, dans les mêmes conditions que les médecins depuis avril dernier. Reportage à Toulon, dans le Var, c'est dans le sud-est, et c'est le département où l'on recense le plus d'IVG par habitante en métropole. Reportage de Siam Spencer.
Derrière les portes vitrées de l'hôpital Sainte-Mus de Toulon, après un ascenseur et un dédale de couloir, on peut rencontrer Julia, sage-femme habilitée à pratiquer les interruptions volontaires de grossesse.
Tous les lundis, en fait, il y a une sage-femme qui fait des consultations d'IVG. Le lundi matin, on est au bloc pour faire les IVG chirurgicales. Et ensuite, l'après-midi, on a un créneau pour faire des consultations ou programmer un créneau de chirurgie.
Les IVG chirurgicales, ce sont celles qui nécessitent une opération et qui permettent aux femmes d'avorter jusqu'au délai maximum légal de 14 semaines de grossesse. Les sages-femmes volontaires, comme Julia, peuvent le pratiquer depuis avril dernier.
Donc le but était de répondre à une demande croissante. Très souvent, lors des appels, elles nous disent « je veux que ça soit vite et je veux être prise en charge vite ». Leur demande de rendez-vous doit être rapide.
Alors Julia et une de ses collègues se relaient chaque semaine.
Il y a un lien de confiance qui est tissé. Ça nous permet du coup de les mettre dans un vrai parcours de soins, qu'elles soient suivies.
Une avancée pour les sages-femmes, mais surtout pour les femmes, explique le docteur Quentin Berle, gynécologue obstétricien et responsable du réseau Ville Hôpital sur les IVG de Toulon.
C'était une demande depuis assez longtemps de certaines sages-femmes qui faisaient déjà les IVG médicamenteuses en ville. C'est un acte qui, techniquement, avec une formation qu'on peut réaliser en toute sécurité, et la possibilité de ces sages-femmes de le faire, c'est vraiment une très bonne avancée pour faciliter l'accès.
Et parfois, avant de pousser les portes de l'hôpital, les futures patientes s'adressent au planning familial. Dans les locaux en pleine ébullition à Toulon pour cette date anniversaire de la loi Veil, même si...
Alors, on peut se sentir submergé à certains moments. Donc voilà, c'était une demande au planning.
Valérie est conseillère au planning familial de Toulon. Elle avait déjà observé les bénéfices de l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer l'IVG médicamenteuse.
Maintenant qu'il y a les sages-femmes qui ont l'autorisation, ça nous permet aussi d'ouvrir des créneaux pour la contraception, permettre à d'autres femmes de venir pour d'autres raisons.
Même si on peut toujours aller plus loin, explique-t-elle.
L'IVG instrumental, nous, on oriente, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un accès à l'IVG plus important et de pouvoir répondre à la demande. Après, j'ai envie de dire, moi je milite pour la formation du personnel médical à être formé pour pouvoir entendre leurs ressentis, leurs émotions, que ça ne soit pas non plus qu'un geste médical.
En France, plus d'un avortement sur 5 est réalisé par voie chirurgicale.
Reportage de Siam Spencer à Toulon. On revient largement sur l'histoire de cette loi, la loi Veil. Comment Simone Veil l'a défendue, comment elle a été adoptée. Vous pouvez lire notre article sur le sujet en une de notre site internet. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu internationale d'ici 20 minutes, RFI Midi. Votre rendez-vous d'information de la mi-journée. Pour l'heure, il est 11h10 en temps universel à suivre. Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval.